France Info.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ces informés de France Info, une heure de débat d'idées sur les sujets qui font l'actualité à la une ce soir. Les gilets jaunes, la violence, le gouvernement qui exige la fin de ces violences. Y aura-t-il un nouveau samedi de manifestation dans une semaine? Quelles sont les issues possibles? Un débat national, un nouveau geste fiscal, ce sera notre premier débat. Nous parlerons également de l'Église face à ses prêtres pédophiles. Le cardinal de Lyon, Monseigneur Barbarin, comparaîtra demain devant le tribunal correctionnel pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Le scandale de l'abus sexuel est une ruine terrible pour toute l'humanité, dit le pape François, qui souhaite que s'applique une tolérance zéro. Et puis dans ces informés de France Info, on parlera de cette cyberattaque qui a ciblé ces derniers jours des personnalités politiques et publiques en Allemagne. Une fuite de données organisée par qui? Pour quelle raison? Et d'ailleurs, sommes-nous tous menacés? Pour débattre de cette info, ce soir, nous accueillons dans ce studio Nora Madi. Bonsoir.
Bonsoir, Pierre.
Journaliste, présentatrice de l'émission Vox Pop sur Arte, magazine d'investigation sur les questions de société.
Exactement.
Bonsoir, Serge Simino.
Bonsoir.
Confrère, journaliste au service politique de France 3. Bonsoir aussi, Jean-Christophe Plequin.
Bonsoir, Pierre.
Journaliste, rédacteur en chef au quotidien La Croix, notre partenaire. Soyez les bienvenus. Bonne année à tous. Dans ces informés du dimanche, il nous faut revenir sur ces violences du 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, des violences contre des policiers, contre des gendarmes mobiles, des violences contre les symboles de notre République avec cette intrusion dans la cour d'un ministère à l'aide d'un engin de chantier, violence que dénonce la classe politique. Mais attention, prévient Bruno Le Maire, il s'agit à présent d'une remise en cause de la démocratie par le fait de quelques-uns. Bruno Le Maire, invité du grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews ce matin.
Je pense qu'il y a aujourd'hui des forces qui veulent tout simplement mettre à bas la démocratie, qui ne veulent plus de démocratie représentative, qui estiment que les représentants du peuple, ceux qui sont présents dans ce studio, moi-même qui ai été élu il y a quelques mois dans ma circonscription de l'Eure, dans le fond nous ne représentons que nous-mêmes. Ce n'est pas vrai. Ils s'arrogent le peuple français. Ils disent nous sommes le peuple français. Non, ils sont une minorité du peuple français. Et en démocratie, c'est la majorité qui décide. Il faut écouter les minorités, bien entendu. Il faut écouter le cri de ceux qui aujourd'hui souffrent et ont besoin de cette justice. Mais au bout du compte, c'est la majorité qui décide. Ce mouvement de remise en cause de la démocratie, d'ailleurs, il n'est pas propre à la France. Il touche beaucoup d'autres pays européens. Donc je voudrais vraiment que chacun prenne conscience de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une remise en cause de la démocratie, de la représentation, des institutions, des organes de pouvoir, de tout ce qui fait qu'une vie en société est possible et se fait dans les meilleures conditions possibles.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Serge Simino, ce constat du ministre, vous le partagez, une minorité qui veut mettre à mal la démocratie?
Il y a un élément dans ce que vient de dire Bruno Le Maire, c'est qu'il faut se rendre compte de la gravité. Mais la gravité, elle est à plusieurs points. Effectivement, il y a eu un regain de mobilisation hier, autour de 50 000, hein, d'après les chiffres, et des faits symboliques de violence qui marquent les esprits. Vous parliez d'intrusion qui a poussé à évacuer Benjamin Griveaux. C'est certes un symbole de la République, puisque c'est un ministère, mais Benjamin Griveaux avait été un petit peu tensé par l'opposition lorsqu'il commenter ce qu'étaient les gilets jaunes. Donc on est dans une espèce de hiérarchie entre il faut que ça s'arrête, mais on ne parle plus politique depuis le 10 décembre, lorsque Emmanuel Macron a répondu sur certaines des revendications des gilets jaunes. Donc la violence, bien sûr qu'elle est condamnable. Il y a un jeu aujourd'hui où chacun renvoie à l'autre le manque de condamnation de la violence. Je pense que le préalable, je crois que c'est Laurent Berger qui en parlait, le préalable c'est que cette violence-là soit condamnée et qu'on puisse après parler du fond. Mais qui parle du fond ? Les gilets jaunes ont des revendications multiples, ils continuent certes à manifester, il y a le pouvoir d'achat, il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et le gouvernement, face à ça, est sur le thème de la violence qu'il faut arrêter, mais on ne parle plus politique. Alors, est-ce que le grand débat, qui commencera le 15 janvier, sera une réponse? On peut en douter, mais il faut remettre de la politique peut-être dans ses discours.
Non, elle m'a dit, concernant la violence, on a vu sur les images, en boucle, hein, sur toutes les chaînes, sur les réseaux sociaux, un garde mobile se faire rouer de coups par un ancien boxeur à Paris, mais aussi dans le même temps, un officier de police à Toulon qui frappe un homme contre un mur parce qu'il avait un tesson de bouteille à la main auparavant. Question, peut-on mettre sur le même plan quelques débordements de policiers et des violences systématiques lors de ces manifestations?
Je pense qu'il est toujours compliqué de mettre sur le même plan, en fait.
C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui,
bien
avec
sûr,
tous les commentaires.
Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas du tout, en fait, prendre le prisme des réseaux sociaux pour se faire une grille de lecture de ce qui est en train de se passer. La violence, en fait, aujourd'hui, on les renvoie dos à dos, mais je dirais qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. Il faut se souvenir des manifestations contre la loi travail, qu'on a peut-être aussi un peu oublié. Il faut se souvenir du 1er mai dernier. Souvenons-nous, donc, les manifestations contre la loi travail, on avait aussi ce sentiment, en fait, qu'il y avait une explosion de violence qui était quelque chose d'assez inédit, que ce soit du côté des policiers, que ce soit en fait du côté des manifestants. Et j'ai un petit peu le sentiment aujourd'hui qu'on est toujours un petit peu en train de refaire le match et que effectivement on ne remet pas de politique là-dedans. On est dans l'exagération, je dirais, de cette grille de lecture qui est « c'est de votre faute, non mais c'est de la tienne ». Et en fait, à un moment, on a du mal aussi à sortir de cette accusation perpétuelle. Pourquoi finalement ? Pour se dire que on est aujourd'hui dans une société où la violence déborde, dégueule littéralement, si vous me permettez l'expression, et on le voit sur les réseaux sociaux, et elle finit en fait par... Par se voir aussi, en fait, dans les mouvements sociaux.
Quoi, la violence simplement. Nourrit la violence.
Complètement, complètement.
On va poursuivre ce débat avec vous dans un instant, Jean-Christophe Ploquin, sur cette question de violence. On va entendre notamment Laurent Berger, invité de France Info et France Inter. À la mi-journée, avant cela, à 20h10, on fait un point sur l'info avec vous, Augustin Rivet.
La police des polices a été saisie dans le Var après le tabassage à coups de poing d'un manifestant par un commandant divisionnaire. C'était hier à Toulon. Le procureur de Toulon estime qu'il était impossible d'interpeller quelqu'un sans violence et que l'homme frappé était armé d'un tesson de bouteille. On apprend ce soir par France Bleu Provence que le policier avait déjà été sanctionné il y a 2 ans pour avoir frappé un collègue, nez fracturé, un simple avertissement sans poursuite. Le droit au logement dénonce les immeubles laissés vides. Dans Paris, ils représenteraient plus de 11% du parc immobilier de la capitale. La preuve par l'exemple avec l'envahissement des anciens locaux de la brigade financière. Aujourd'hui, ils appartiennent à un groupe bancaire. Des étages inutilisés depuis 2 ans. D'après France Bleu Paris, 200 SDF et militants y ont pris place aujourd'hui. John Bolton en Israël, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, en a profité pour parler aujourd'hui de la Syrie et du retrait annoncé des soldats américains du pays. C'est loin d'être fait. Ça ne sera possible selon lui qu'à une condition, et c'est que la Turquie s'engage à garantir la protection des Kurdes syriens, des combattants qui ont largement contribué à la bataille contre Daesh. Ankara les considère comme des terroristes. Les 32e de finale de Coupe de France de football, l'OGC Nice éliminé par Toulouse 4-1, Bordeaux sorti par Le Havre 1-0, grosse surprise avec la défaite de l'Olympique de Marseille vaincu par Andrézieux 2-0, Noisy-le-Grand en 6e division s'est qualifié aux dépens du Gazélec Ajaccio, club de Ligue 2, 2-1. À 20h45, ce sera Pontivy PSG.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Les informés de France Info avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de l'émission Vox Pop sur Arte, avec Serge Simino de la rédaction politique de France 3, et avec vous, Jean-Christophe Ploquin. On ne vous a pas encore entendu, notre partenaire de La Croix, concernant ces violences pour le 8e samedi consécutif. Faut-il plus de fermeté face à la violence des manifestants, comme ont pu le demander certains syndicats de policiers aujourd'hui?
Je pense que c'est effectivement la question du maintien de l'ordre. Elle se pose aujourd'hui, mais il semble, enfin certains spécialistes, un peu de experts, disent attention si la répression. Si on passe vraiment dans une attitude de répression, ça va avoir un effet démultiplicateur de violence. Donc sans doute qu'il faut avoir des dispositifs policiers robustes, mais il faut aussi gérer la violence correctement. Et l'exemple de cet officier du côté de Nice en est un exemple. Il faut absolument que les policiers restent exemplaires dans leur comportement. C'est vrai que face à eux, je pense qu'il y a un peu deux types de personnes violentes. On a l'impression que chez les Gilets jaunes, il y a un peu canal historique, donc des gens qui sont là depuis le tout début et qui portent encore des revendications peut-être de départ, même si les revendications de départ, c'est quand même beaucoup lié au pouvoir d'achat, et celles-ci, elles ont obtenu réponse. Donc aujourd'hui, on est sur d'autres types de revendications qui sont plus politiques, effectivement, le référendum d'initiative citoyenne, etc. Mais, donc il y a des éléments du canal historique, et puis il y a quand même aussi des gilets jaunes, le canal révolutionnaire. Il y a quand même, c'est ce que disent Bruno Le Maire, c'est ce que dit Laurent Berger, je pense qu'il y a une part de vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui, et c'est ce que disait un peu que Nora tout à l'heure, on retrouve quand même des éléments de violence qu'on a déjà vus dans d'autres manifestations précédemment, le 1er mai ou autant des manifestations contre la loi travail. Et donc, on a le sentiment qu'on retrouve là des acteurs qui sont un peu dans le dégagisme violent et qui, finalement, dans une vision très pensée, finalement, de la violence comme instrument politique.
Donc, quelles que soient les propositions que puisse faire le gouvernement, le chef de l'État, la violence continue.
Ah ben, je pense qu'il y a une petite partie très militante et très mobilisée qui est là pour profiter du contexte pour accroître la violence, parce que la violence est théorisée dans certains milieux comme un accélérateur, finalement, de la désagrégation du consensus politique. Nora, donc, il faut y aller.
Nora, et ce qui est assez terrible aussi, c'est de se rendre compte que dans la lecture des événements, il y a eu le 17 novembre, mais il y a eu aussi ce deuxième samedi où on a vu des images absolument terribles en fait sur les Champs-Élysées. C'est à partir de ce moment-là seulement que le gouvernement s'est dit qu'il fallait répondre. Et il y a aussi, je pense, une problématique à se poser sur la manière dont on répond en fait aux mouvements sociaux en France. J'ai souvenir comme ça des Conti, hein, des ouvriers des Conti qui demandaient à être reçus par le préfet suite à l'annonce de la fermeture de leur usine. Et il a fallu pour ça, et Xavier Mathieu le rappelait il y a très peu de temps encore sur une antenne de télévision pendant le pic de ce mouvement des Gilets jaunes, donc début décembre, avant la réponse du gouvernement, qu'il avait fallu saccager une préfecture pour qu'il soit enfin reçu par le préfet et les ministres. Donc il faut aussi se poser la question de quel est le sens de la violence en fait dans les rapports sociaux entre des éléments, des gens qui revendiquent et la réponse en fait qu'apportent les gouvernements. Et
Serge Simino.
Oui, c'est que on parle parfois des casseurs comme si on savait d'où ils venaient. On a vu pendant les lois travail, vous le disiez. Là aussi, il y a certainement des profils très très différents. Une semaine, on nous dit c'est l'ultra droite, une autre fois l'ultra gauche, d'autres fois ceux qui ont théorisé la possibilité de destituer le président de la République. Mais la différence avec les précédents mouvements, c'est qu'il y a un rapport qui a instauré le président de la République, un rapport direct avec le peuple, on va dire. Même si je ne sais pas ce que c'est, je pense que nous en faisons partie aussi. Mais bon, on va pas débattre sur ce qu'est le peuple. Cette différence-là, elle n'est pas secondaire. C'est que, à force de dire c'est vous et moi, aujourd'hui, les Gilets jaunes, qui ne sont bien sûr pas tous violents, mais le rapport au président de la République, il est là.
Et direct.
C'est nous et vous. Et dans des termes rarement très très polis.
Alors comment sortir de cette crise? Ce sont peut-être les questions fiscales de pouvoir d'achat qui permettront de sortir de cette crise. C'est en tout cas ce que disait à la mi-journée Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, dans l'émission Questions politiques. C'était sur France Info, France Inter et pour le journal Le Monde.
Là, nous sommes dans une impasse. Force est de le constater. On est dans une impasse. C'est-à-dire qu'on a un mouvement violent dont je condamne les violences. Mais on a, face à cela, un gouvernement qui considère qu'il va pouvoir trouver les solutions tout seul. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout le monde le sait. La société, elle est complexe. Il n'y a pas de simplice. Vous parlez de simplice. Mais si les choses étaient simples comme ça, on aurait tous trouvé les solutions. Donc ça veut dire qu'il faut que les différents courant de pensée, se confronte, apporte des propositions. La CFDT, elle en a plein,
ça me vous comprenne bien, Monsieur Berger. Ça veut dire que vous réclamez, à côté du grand débat national, une grande conférence sociale avec notamment les syndicats. Est-ce que c'est
ça? Oui, moi, je continue de réclamer cette conférence du pouvoir de vivre. Qu'est-ce qui est posé?
Une sorte de Grenelle du pouvoir de vivre,
ce que vous avez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est posé? Il est posé les questions de pouvoir d'achat, c'est vrai, de fiscalité. Il est posé aussi la question de l'accessibilité. L'accessibilité aux services publics. L'accessibilité à un certain nombre de droits qui sont créés, mais dont on n'a pas auxquels on n'a pas accès. Et ça, il faut trouver les solutions pour répondre à ces problèmes-là. Et moi, oui, vous avez parlé de 68 dans mon portrait. L'après 68, moi je suis né après 68.
Ça s'est terminé avec le Grenelle.
Ça s'est terminé avec des avancées sociales, oui.
Jean-Christophe Ploquin, vous venez d'entendre Laurent Berger, il dit on est dans l'impasse, il faut une grande conférence du pouvoir de vivre. Autrement dit, il faut introduire à nouveau dans la discussion les corps intermédiaires qui ont été supprimés depuis 18 mois.
Alors ça, je pense que pour le président Macron, c'est vraiment un enjeu déterminant de s'en rendre compte que oui, il faut briser ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette vision d'un président un petit peu omniscient et omnipotent et qui allait, par la grâce de son élection, effectivement, être en contact directement avec la population. Et donc, on peut vraiment voir que pendant un an, il a eu l'élan nécessaire pour essayer de d'appliquer ce principe-là. Mais là, depuis aujourd'hui 6 mois, ce modèle est en panne. Et donc, il faut effectivement qu'il s'appuie sur des corps intermédiaires, les syndicats, évidemment, même si on peut questionner leur représentativité. Mais voilà,
il faut un Grenelle 2018 comme il y en a eu un en 68.
Je sais pas, moi, le terme Grenelle commence à m'agacer un peu parce que on c'est un peu à vos valises, oui. Voilà, oui. C'est ça.
Pardon,
moi, le débat national, il peut servir à ça, mais à condition que le président Macron laisse Chantal Jouanneau et sa commission, par exemple, justement, c'est un corps intermédiaire, sont des spécialistes de la consultation, et il faudra vraiment qu'il les laisse gérer ce débat et l'organiser et en faire ressortir finalement l'essentiel des propositions.
Nora Amadé.
Ce qui est terrible dans ce qu'on vient d'entendre de Laurent Berger, c'est que vous avez pris donc le morceau où il dit c'est une impasse, mais juste avant, il dit quelque chose d'absolument terrible qui est « Je n'ai aucun contact avec le président de la République depuis le 10 décembre ».
Et la question lui a été reformulée.
Exactement, parce que effectivement, il y a eu une sidération sur le plateau et moi j'étais devant Mario, j'ai fait « Mais comment est-ce que aujourd'hui, vu l'état d'urgence sociale, économique, vu les demandes aujourd'hui des Français qui sont pour le coup assez claires, on voit bien que ce qui commence à remonter, c'est le pouvoir d'achat, c'est la nécessité d'une démocratie participative, le référendum d'initiative citoyenne en est la preuve, c'est le fait de retrouver de la dignité tout en étant écouté. Alors, à partir de ce moment-là, il a effectivement mis en place un dialogue direct avec les Français, en l'occurrence, on se souvient tous de ce « Venez me chercher » sur l'affaire Benalla, qui l'a conduit en fait à ce que certains gilets jaunes viennent le chercher au Puy-en-Velay quand il a été visiter cette sous-préfecture qui a été incendiée. C'est assez terrible en fait de se rendre compte que aujourd'hui encore, dans ce moment en fait qui cristallise toutes les tensions, on ne puisse pas être en capacité d'aller chercher ces corps intermédiaires, même si effectivement ce n'est pas la solution à tout. En fait, à un moment, il faudrait être en capacité de rassembler tout le monde autour d'une table. Et on voit bien que cet exercice du pouvoir jupitérien extrêmement centralisé, qui commence aussi à se déliter, on voit que ses conseillers commencent à partir, enfin, il y a un vrai problème en fait d'exercice du pouvoir au bout de 18 mois. Et s'il n'est pas en capacité en fait d'ouvrir pour créer du consensus et aller vers les Français et à tout du moins aller vers les corps intermédiaires, je pense qu'on n'en sortira pas.
On va poursuivre ce débat désinformé dans un instant. On continue à évoquer cette question fiscale de pouvoir d'achat. On va entendre notamment à nouveau Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Laurent Berger. Avant cela, on fait un nouveau point sur l'info à 20h20 avec vous, Augustin Rivet.
Des rassemblements de femmes gilets jaunes aujourd'hui, quelques centaines, 500 à Paris, 300 à Toulouse, pour donner une autre image du mouvement que les seules violences médiatisées d'hier. Ces violences, elles débouchent sur des enquêtes. La police des polices a été saisie par le préfet du Var. Un officier de police toulonnais a été filmé hier frappant un manifestant à coups de poing. D'après le procureur de la République, la victime était armée de tessons, de bouteilles. À ce moment-là, le commandant en fait partie de la dernière promotion de la Légion d'honneur. Il y a 2 ans, il avait été averti pour avoir fracturé le nez d'un de ses collègues. Le pape François demande aux dirigeants européens de trouver une solution d'accueil aux 49 migrants bloqués en Méditerranée depuis plus de 2 semaines. Des hommes et des femmes originaires d'Afrique et qui ont été secourus par 2 bateaux humanitaires allemands. Message délivré ce matin, place Saint-Pierre à Rome. Les 32e de finale de Coupe de France avec le club de Noisy-le-Grand, 6e division, qui élimine les professionnels du Gazélec Ajaccio en Ligue 2. 2-1, ça fait partie des surprises du jour. À 20h45, on aura Pontivy-PSG. Les footballeurs d'Andrézieux ont battu l'Olympique de Marseille 2-0 cet après-midi. Et puis le mouvement des gilets jaunes a des conséquences inattendues, ainsi cette histoire racontée par l'Est républicain. Un joueur d'un club de pétanque vosgien a été sujet à un contrôle de gendarmerie scrupuleux en marge de la manifestation d'Épinal. Il s'est vu confisquer ses boules hier après-midi alors qu'il se rendait à une compétition. Il ne pourra les récupérer qu'en se rendant dans quelques jours à la gendarmerie.
France Info.
Les informés. Pierre Neveu.
On poursuit ce débat des informés de France Info avec Jean-Christophe Ploquin, avec Nora Amadi, avec Serge Simineau. Je vais vous donner la parole, mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une intervention de Bruno Le Maire, invité de l'émission Le Grand Rendez-vous sur Europe 1 et CNews ce matin. Dans les revendications des Gilets jaunes, il y a un symbole, le rétablissement de l'impôt sur la fortune. L'ISF, 77% des Français le demandent, selon ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Pas question d'y toucher, réaffirme Bruno Le Maire.
Il se trouve qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République sur la base d'un projet qui comprenait une transformation fiscale en profondeur qui a été votée par une majorité de Français. Donc je ne souhaite pas que nous revenions sur l'ISF, sur le prélèvement forfaitaire unique ou sur la baisse de l'impôt sur les sociétés qui doit permettre à nos entreprises de se développer.
Donc tout ce qui a été fait, on ne revient pas dessus.
Il ne s'agit pas que le débat conduise à détricoter tout ce qui a été voulu par les Français au moment de l'élection présidentielle et tout ce qui a été mis en œuvre depuis. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer en reculant. En règle générale, ça mène pas très loin. En revanche, il y a une évaluation qui va être faite par ce comité d'évaluation que j'ai installé il y a quelques semaines, qui est composé d'économistes chevronnés, de parlementaires, de personnalités qualifiées qui connaissent parfaitement leur sujet. Ils vont rendre une évaluation à la fin de l'année 2019 et nous en tirerons les conséquences. S'il faut améliorer certains dispositifs fiscaux que nous avons adoptés, nous améliorerons les dispositifs fiscaux sur la base des recommandations de ce comité.
Voilà, vous venez d'entendre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Serge Siminaud. C'est un totem, l'ISF, un symbole, même si ça n'a rapporté que 4 milliards d'euros l'an dernier. Pas question de détricoter l'ISF, dit le ministre.
Oui, alors souvent on oppose les totems aux tabous. Je pense qu'on est effectivement entre les deux, c'est-à-dire que Bruno Le Maire semble nous dire que c'est une certitude. Il faut que ça se soit maintenu, que cette réforme-là, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, qu'on n'y touche pas. Mais c'était valable en 2017, sans aucun doute, dans un programme. Ce qui peut laisser aussi entendre que Emmanuel Macron aurait été élu sur son programme et non pas comme un barrage au Front National. Mais on ne va pas rouvrir cette parenthèse-là. Mais je pense que le moment n'est pas aux certitudes. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite réformer la réforme de l'ISF, mais pour autant, je pense que les mots ont un sens dans ces cas-là. Dire que ce débat-là est fermé, alors qu'on entame le 15, je crois, le grand débat national, où il sera question de justice fiscale, mais pas d'ISF, j'aimerais qu'on m'explique, qu'on ne parle pas de la réforme potentielle du CICE, c'est-à-dire qu'il a été réformé depuis... celui qu'avait mis en place François Hollande, mais qu'il pourrait être, pourquoi pas, plafonné. Enfin, toutes ces solutions-là semblent fermées. Donc, où va-t-on trouver les fameux 10 milliards d'euros, je crois, qui sont faits pour financer les avancées du 10 décembre 2018? Et c'est là, moi, que je pense qu'il y a... Je disais tout à l'heure, il faut remettre de la politique. S'il ferme toutes les portes, les gilets jaunes rentreront par les fenêtres. Et les fenêtres, ce ne sont pas des fenêtres politiques. Et on revient au débat de tout à l'heure. On est sur... Nous arriverons, pour ceux qui sont toujours motivés, ceux du début, le canal historique, comme vous disiez tout à l'heure, ils sont sur des propositions de pouvoir d'achat. Toutes ne sont pas réalisables. Mais lorsque Laurent Berger parle de pouvoir de vivre, on est pour certains dans le permis de vivre. Et c'est pas en changeant la formule pouvoir d'achat, pouvoir de vivre, qu'on va résoudre le problème.
Alors justement, je voudrais vous faire écouter Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité de France Info, France Inter à la mi-journée. Pour lui, la question fiscale, écoutez, c'est le nerf de la guerre.
Si on veut aller agir sur la question fiscale, on peut très bien alléger... sur la question fiscale, la fiscalité qui pèse sur les plus bas revenus. C'est quoi la fiscalité qui pèse le plus sur les bas revenus? C'est la fiscalité indirecte.
C'est la TVA.
Elle pèse davantage sur les plus bas revenus au regard, en proportion de ce que sont leurs revenus par rapport à ce qu'ils payent d'impôts indirects. Cet impôt, il est totalement injuste. Et donc, moi, je dis juste que cette réforme fiscale qu'on appelle de nos voeux depuis des années, on avait remis en début de quinquennat des propositions au gouvernement là-dessus, il va falloir qu'on y passe. Parce que derrière tout cela, c'est pas des mesures techniques, c'est... Quelle conception on a les uns et les autres de notre vivre ensemble, de notre cohésion sociale, de la société qu'on veut construire, de l'effort individuel qu'il faut faire au service du collectif. Ça peut pas être les plus fragiles qui le font parce qu'ils font masse. Ça doit être aussi les plus hauts revenus, mais il faut aussi que chacun y contribue. Moi, je suis attristé, mais plus qu'attristé, inquiet de la faiblesse du consentement à l'impôt. La faiblesse du consentement à l'impôt, c'est notre incapacité à vivre ensemble demain. C'est le chacun pour soi.
Nora m'a dit, cette question de la TVA, c'est un point essentiel pour Laurent Berger. Ça peut être une clé pour sortir de cette crise.
Ça peut être effectivement une clé. Après, je pense que
mais
c'est
ce
pas,
sont des rentrées, c'est les meilleures rentrées
c'est
fiscales.
C'est les meilleures rentrées, mais effectivement,
pour le budget,
il a raison quand il dit que c'est l'impôt le plus injuste.
Ça rapporte 152 milliards d'euros dans les caisses de l'État.
Mais c'est vrai.
Le double de l'impôt sur...
Exactement. Et le problème, c'est qu'à l'heure où vous avez un Français sur deux qui paye ses impôts, tout le monde paye la TVA, en fait, au même titre. C'est-à-dire que vous gagniez 10 000 euros par mois ou que vous soyez, en fait, au RSA, votre baguette, elle vous coûte la même chose et le taux de TVA, en fait, est identique. Je prends l'exemple de la baguette, il y en a tant d'autres. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est la question de la faiblesse du consentement à l'impôt. On voit très bien qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à payer leurs impôts. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils n'ont plus accès aux services publics comme c'était le cas auparavant. Et aujourd'hui, c'est aussi, je pense, la question des services publics qui doit être posée. Les impôts, oui, mais pourquoi derrière ?
Merci. On va poursuivre ce débat des informés dans la deuxième partie. On va parler notamment de ce procès qui s'ouvre demain à Lyon, concernant le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur Barbarin. Restez avec nous. Tout de suite, la météo et l'info.
France Info Trafic, avec les cours Legendre, cours particuliers et stages de révision par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Mais d'abord, on fait un détour par le PC Mobilité de Radio France. Avec vous, Najet et Sadouki, où se trouve le problème, le plus gros problème en ce moment?
Il y a des ralentissements actuellement sur l'A7, un bouchon de 3 km dans les Bouches-du-Rhône au niveau du péage de Lançon-Provence quand vous roulez en direction de Marseille. Je vous signale également cet accident en région parisienne sur la francilienne intérieure au niveau de Mitro-Maury. La voie de droite est coupée à la circulation, conséquence 25 minutes de ralentissement. Prudence aussi si vous êtes vers Perpignan. On nous signale un vent très fort ce soir. Il y a eu quelques minutes un accident sur l'A9 au niveau de Caves, au nord de Perpignan.
Merci à vous, Najet et Sadouki. Tout de suite, la météo.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Jean-Michel Gounaski, Météo France.
Pas de changement demain, avec toujours du gris et du bleu pour les mêmes régions, avec la persistance d'un soleil vaillant du sud du Massif central au Golfe du Lion, des Alpes à la Corse et sur les Pyrénées. Mais le Mistral et la Tramontane seront toujours sensibles, vers 90 km à l'heure. De l'Aquitaine au Midi-Pyrénées, les nuages bas ne vont pratiquement pas évoluer de la journée. Avantage, les gelées nocturnes seront moins fortes que ce week-end. Enfin, sur les deux tiers nord, on ne verra toujours pas le soleil ce lundi, sous un ciel uniformément gris, parfois ponctué de pluies fines et souvent doublé de brouillard en début de journée. Les températures de la nuit vont descendre vers moins 3 degrés au sud de la Garonne, moins 1 sur l'Auvergne, 0 à plus 4 ailleurs. Dans l'après-midi, il est prévu 13 à 16 degrés de Perpignan à Nice, 15 à Bastia, 2 à 5 dans le sud-ouest de Rhône-Alpes au nord-est et 6 à 8 du nord de la Loire à la Belgique.
Vous écoutez France Info, merci. Il est précisément 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
On retrouve Julien Langlais pour l'info.
Le préfet du Var a saisi l'inspection générale de la police nationale après la diffusion d'une vidéo montrant un officier de police frappant plusieurs personnes lors d'une manifestation des Gilets jaunes hier à Toulon. Le policier filmé est commandant divisionnaire, âgé de 34 ans, et il fait partie de la dernière promotion de la Légion d'honneur. Mathilde Vincenneux.
La scène se déroule en pleine rue, avenue Vauban, et l'on voit ce commandant en uniforme, sans casque, qui se retourne vers un manifestant déjà plaqué au mur par les CRS. L'homme ne porte pas de gilet jaune, mais le policier se met à le frapper violemment de coups de poing au visage à main nue. La personne qui filme hurle, arrêtez de le battre. Le fonctionnaire de police est finalement stoppé par ses collègues. Plus tard, dans la vidéo, on voit le même commandant plaquer un gilet jaune sur le capot d'une voiture avant de le frapper. Selon les syndicats de police, le premier manifestant menaçait les forces de l'ordre avec un tesson de bouteille. Le deuxième aurait, lui, participé à des dégradations en marge du défilé. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue. Le commandant, lui, a été blessé. Aucune enquête de l'IGPN, la police des polices, n'a été ouverte pour l'instant.
Et le procureur de la République de Toulon, lui, n'a pas ouvert de procédure contre le fonctionnaire. Il explique qu'il y avait un contexte insurrectionnel dans lequel il était impossible d'interpeller quelqu'un sans violence. Pour l'exécutif et les Gilets jaunes, c'est l'heure du bilan. Après ce 8e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, un nombre de manifestants en hausse par rapport au samedi précédent, mais un message brouillé par des incidents, avec notamment cette intrusion dans le ministère du porte-parole du gouvernement ou encore ce gendarme violemment frappé sur une passerelle parisienne. Le secrétaire général de la CFDT et Laurent Berger appelle aujourd'hui à arrêter d'être naïf face à des gens qui, je cite, veulent renverser la démocratie. Le syndicat de Police Alliance a de son côté réitéré sa demande de création d'un fichier de manifestants violents. Et puis aujourd'hui, des cortèges de femmes gilets jaunes ont été organisés un peu partout en France. Quelques centaines rassemblées à Paris, Toulouse, Tours, Montélimar ou Rennes, par exemple. Les 32e de finale de la Coupe de France et l'Olympique de Marseille sèchement éliminés des son entraîneur.
entrée en lice par le club de National 2 d'Andrézieux. Défaite 2-0 des Marseillais. L'OM éliminé de toutes les coupes européennes et nationales. Et puis toujours en Coupe de France cet après-midi. Qualification du Havre, de Toulouse, de Rennes, de Reims, de Monaco, mais aussi de Saint-Étienne, Saint-Privé, Saint-Hilaire ou encore Vitré. Ce soir, le PSG est attendu à Lorient pour jouer contre Pontivy. Et puis demain, le dernier match opposera Lille à Sochaux. Pas encore de date pour la rencontre qui devait opposer vendredi Grenoble à Strasbourg. Et puis en rugby, Clermont-Ferrand qui recevait La Rochelle l'a facilement emporté 44-19 et retrouve sa place de leader.
Merci Julien Langlais. Il est 20h33.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés de France Info avec Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef au quotidien La Croix, notre partenaire le dimanche soir, avec Serge Chimino du service politique de France 3 et puis avec Nora Amadi, présentatrice de l'émission Vox Pop sur Arte. Avant d'évoquer ce procès qui va notamment concerner le cardinal Barbarin demain à Lyon, on termine sur la question des gilets jaunes, sur le pouvoir d'achat. Je voudrais vous entendre, Jean-Christophe Ploquin. Faut-il rétablir l'impôt sur la fortune? Faut-il abaisser la TVA? C'était les questions évoquées il y a quelques instants.
Oui, alors ça a été dit, hein, l'ISF c'est vraiment le totem absolu. Il y a une puissance symbolique qui est attachée à cet impôt, tel que finalement il revient, y compris dans des discours au milieu de revendications qui sont toutes simples. J'entendais par exemple un orateur à Bordeaux tout à l'heure, il parlait de moralisation de la vie politique, réévaluation des salaires et du minimum vieillesse, indexation sur l'inflation des allocations familiales et remise en place de l'ISF. Donc au milieu de mesures qui touchent effectivement finalement les gens qui ont les plus bas revenus, s'ajoute cette mesure à forte portée symbolique qui vise finalement à être sûr en quelque sorte que les personnes plus riches, elles, sont davantage ponctionnées. Alors c'est un symbole, il est très peu probable, effectivement, que le président Macron y touche, puisque effectivement, ça a été un engagement de campagne. C'était assez amusant tout à l'heure d'entendre Bruno Le Maire bien rappeler que c'était un engagement de campagne du président. Donc lui, il applique la politique du président. Mais en tout cas, il a bien attribué la responsabilité au président Macron. Moi, et sur le débat fermé, juste un dernier mot, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que vendredi, il y a eu un rapport d'un think tank qui s'appelle Terra Nova et qui, justement, en cherchant un peu de l'argent dans les caisses, dit, mais pourquoi est-ce que on renforcerait pas la fiscalité des successions sur les patrimoines les plus élevés? Et on lui a tout de suite fermé la porte au nez en disant donc à Terra Nova, pas question, on n'ouvrira pas cette porte-là. Donc, effectivement, on a le sentiment que le débat sur la fiscalité, pour le moment, effectivement, très gelé par le gouvernement.
Alors, dans cette informée de France Info, on va ouvrir une page sur ce qui sera dès demain l'un des sujets de notre actualité, le procès du cardinal Philippe Barbarin pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, des faits qui remontent aux années 86 à 91, agression sexuelle sur des jeunes scouts, des actes commis par le père Bernard Prena. Alors, on ne va pas, dans ce studio, faire le procès, mais évoquer le silence de l'Église. Ce procès de Monseigneur Barbarin doit être un électrochoc pour l'Église de France. Je m'adresse à vous, Serge Chimino.
Ce qui est étonnant, c'est que ce procès débute début 2019, après une année qui a été partagée par les révélations, des tergiversations, et malgré tout une parole libérée, mais libérée toujours du côté des victimes, par des plaintes ou par des révélations. Il y a eu un événement, je crois que c'était à Lourdes, la conférence des évêques, voilà, qui lance une grande, je ne sais pas si on peut parler d'enquête, mais en tout cas d'une commission qui pourrait être une commission de transparence sur les abus sexuels sur mineurs, je crois, dans l'Église depuis 1950. Donc je ne sais pas si les choses bougent dans le bon sens, celui de la parole libérée. En tout cas, il faut penser là aux victimes, soit celles qui portent plainte, soit celles qui sont toujours dans le silence. Mais vous le disiez, pas question bien évidemment de faire le procès, mais le silence des hommes, c'est le silence de l'Église et de l'institution. Il y a des fractures, des paroles qui se libèrent de ce côté-là. Là, c'est un procès, donc je ne sais pas si on peut parler de justice de Dieu lorsqu'on est un ecclésiastique.
Justement, les
là,
mots,
c'est la justice des
les
hommes.
Mots ont une importance. Je voudrais entendre votre commentaire, Jean-Christophe Ploquin, journaliste au quotidien La Croix. Dans un message adressé aux chrétiens du diocèse de Lyon, aujourd'hui, Monseigneur Barbarin dit ceci: demandons au Seigneur que s'accomplisse le travail de la justice. Alors là,
Je vais dire qu'on aborde toute la complexité à la fois de l'autorité divine et de la loi des hommes.
Alors, en fait, que dit le cardinal Barbarin quand il prononce cette phrase? Il dit juste que la justice des hommes passe. Et ça veut dire qu'il va participer au procès, il va être... il se présente, je dirais, non pas de... Il ne cherche pas à faire obstacle au travail de la justice. Très clairement, il sera participant. Et donc après, bah, il y a le langage de la foi, effectivement, où là, il est plus dans le message un peu vis-à-vis de la transcendance. Mais donc, en ce qui concerne le procès qui va s'ouvrir demain, le cardinal Barbarin sera bien là. Il faut rappeler que je souscris totalement à ce qui a été dit tout à l'heure hein, sur le fait que ce procès, c'est un peu le procès d'un silence, c'est le procès d'une inaction. C'est-à-dire que le cardinal Barbarin a été informé à un moment donné. Les faits dont vous parliez tout à l'heure, Pierre, se sont produits bien avant que le cardinal Barbarin arrive à Lyon.
C'était
à
l'époque le Monseigneur de Courtrai.
De Courtrai, ensuite il y a eu deux autres évêques qui sont passés et le cardinal Barbarin est arrivé là. Et donc, il a été prévenu à des moments, on ne sait pas exactement quand, qu'il y avait ce prêtre pédophile qui avait été à un moment donné retiré d'une paroisse et mis dans un autre endroit. Et l'inaction, c'est qu'il n'a pas... agit à ce moment-là pour savoir mais est-ce qu'il y a encore des choses répréhensibles, pourquoi est-ce que quelqu'un qui finalement aujourd'hui on sait qu'il y a au moins 70 enfants qui ont été abusés, quelle est la conséquence pour ces 70 enfants, quels sont les risques pour d'autres enfants. Donc c'est un petit peu ce dossier sur un placard ou dans un tiroir qui n'a pas été sorti, c'était pas une priorité, il n'y avait pas d'enjeu, et c'est ça aujourd'hui finalement, où le cardinal Barbarin lui-même, dans une interview récente au Monde, disait « Aujourd'hui, on ferait ça différemment ». Et donc, c'est à la fois la reconnaissance que, finalement, il n'a pas sans doute agi comme il aurait dû, et aussi peut-être que c'est aussi tout le regard, finalement, de l'Église, mais même au-delà, finalement, sur la pédophilie, qui a changé, c'est-à-dire la prise en considération des souffrances faites aux victimes, qui sont des souffrances souvent extrêmement durables sur le plan psychologique. Et donc voilà, c'est un peu ce procès-là qui va se dérouler.
On va poursuivre ce débat avec vous, Serge Simino, Nora Madi. C'est la une de la Croix. Hein,
c'est
demain,
la une de la Croix de demain, oui.
Le titre de l'affaire Préna au procès Barbarin.
Exactement.
On va poursuivre ce débat, restez avec nous, 20h40, l'essentiel de l'info, Augustin Rivé.
Il avait fracturé le nez d'un de ses collègues il y a 2 ans. Un commandant de police de Toulon fait aujourd'hui l'objet d'une enquête de la police des polices, filmée hier en train d'asséner des coups de poing à un manifestant en marge d'un cortège des Gilets jaunes. Le procureur du Var dit que la victime tenait des tessons de bouteille. De son côté, la Fédération française de boxe s'est exprimée après la vidéo diffusée hier d'un homme, un ancien boxeur professionnel, frappant un gendarme à Paris. Comportement inacceptable et honteux. D'après la Fédération, l'agresseur est toujours en fuite. Bruno Le Maire ne souhaite pas que le gouvernement revienne sur la suppression de l'impôt sur la fortune. Le débat, selon lui, ne doit pas conduire à détricoter ce qu'il estime voulu par les Français lors de l'élection présidentielle. Cette suppression de l'ISF permettant, d'après le ministre de l'Économie, aux entreprises françaises de se développer. La Coupe de France, ça passe pour Rennes, Monaco, Reims ou Saint-Etienne. L'aventure s'arrête dès les 32e de finale pour d'autres clubs de l'élite. L'Olympique de Marseille sorti 2-0 par Andrézieux, Bordeaux battu par Le Havre un petit but à rien, ou Nice dominé 4-1 à Toulouse. Ce soir 20h45, le PSG se déplace à Pontivy. Parmi les nommés des Golden Globes, la cérémonie a lieu cette nuit à Los Angeles. Vous pourrez guetter la série télé The Americans. Elle est citée dans les catégories meilleure série dramatique, mais aussi meilleur acteur et meilleure actrice de ce genre. Le Français Michel Gondry pourrait voir sa série Kidding primée dans la catégorie meilleure série comique. Côté ciné, Lady Gaga par favorite comme meilleure actrice dramatique pour son rôle dans A Star Is Born.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Dans ces informés avec vous, Jean-Christophe Bloquin, Nora Madi, Serge Simino, on continue à parler de ce procès Barbarin qui s'ouvre demain. Avant de vous donner la parole, Nora, je voudrais vous faire écouter ces quelques témoignages de chrétiens recueillis cette semaine par nos confrères de France 3 Lyon.
Oui, c'est très grave ce qu'il a fait, de ne pas dénoncer les prêtres pédophiles, quoi. Les prêtres sont des humains comme les autres, et ils peuvent avoir les torts et des violences et des pulsions comme les autres, mais ils ne sont pas exempts de la justice des humains, quoi.
On est tous des citoyens et je suis contre les privilèges.
La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Et que Dieu voit les cœurs et Dieu seul connaît la vérité.
Voilà, Nora m'a dit, j'ai extrait quelques témoignages. Mais dans ces quelques témoignages, on sent à la fois de l'embarras et de la nécessité de faire toute la lumière, quoi qu'il en coûte.
Et je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est de montrer à quel point aujourd'hui l'Église catholique et les fidèles en fait sont en capacité justement de faire, de mettre au jour tout ce passé et de reconnaître en fait la souffrance des victimes. Mais je pense que derrière le procès Barbarin, c'est le procès de l'institution et il va falloir en fait pour que tout ceci soit soldé, qu'il soit aussi en capacité en fait de pointer les errements, les erreurs. Et j'ai relu en préparant nos échanges de ce soir, en fait, la sanction qui a été infligée en fait au prêtre Vignon en novembre dernier, un prêtre qui a soutenu je parle sous le contrôle de Jean-Christophe, hein, il est donc au diocèse de Lyon également.
Alors, il est au diocèse dans la Drôme.
Il est dans la Drôme.
Mais effectivement, pour une de ses fonctions, il dépendait du diocèse de Lyon, la région.
Voilà, il est juge ecclésiaste.
Et il a lancé une pétition.
Exactement. Et il a été lanceur d'alerte hein, sur ces questions. Il a énormément soutenu
pour demander la démission du cardinal.
Du cardinal Barbarin. Alors, on le sait truculent, on le sait plutôt fort en gueule, mais quoi qu'il en soit, il a été sanctionné, et ça a été en novembre dernier, après ses prises de position. Donc là, moi, ce qui me pose question, c'est comment peut-on aujourd'hui accueillir, entre guillemets, cette justice des hommes, et finalement pointer la responsabilité de celui qui a mis aussi en lumière ces abus au sein du diocèse. C'est ça qu'il va falloir aussi en fait mettre au jour, et je pense que la question du comportement en fait de l'Église autour de ces abus doit être traité dans le cadre de cette justice et donc de ce procès qui s'ouvre demain, mais il doit y avoir un aggiornamento qui doit se faire au sein de l'Église aussi.
Il y a une femme que vous connaissez certainement, Jean-Christophe Ploquin, directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens. Elle a lancé une croisade contre la pédophilie dans l'Église. Elle s'appelle Christine Pedotti. Elle signe chez Albin Michel « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» Elle dénonce l'omerta, la culture du silence dans l'Église. Elle écrit « Vous savez tout, vous dirigez tout, vous décidez tout, voyez le résultat, vous avez failli, dissimulé, menti, blessé et pire que tout, vous ne vous en êtes pas rendu compte. » Voilà le message qu'il faut faire passer aujourd'hui à travers ce prétexte, entre guillemets, qu'est ce procès demain.
Oui, je pense que aujourd'hui, le curseur, en quelque sorte, ou plutôt le projecteur, les dames qu'on a entendues qui du diocèse de Lyon tout à l'heure, je pense que pour elles, elles ont conscience que la priorité, c'est les victimes et c'est pas les prêtres. Et donc, dans les affaires de pédophilie, ceux qui doivent être soutenus, c'est d'abord les victimes et c'est pas défendre les prêtres. Et l'attitude qu'il y avait jusque-là, évidemment, principalement chez les prêtres et chez les évêques et dans toute l'institution, c'était « Oula, on défend les prêtres, on fait un peu cordon sanitaire et il y a des choses qui sortent pas ». Donc ça, c'est une vraie réalité, c'est quelque chose que le pape désigne avec un terme qui s'appelle le cléricalisme. C'est-à-dire, en gros, dans l'Église catholique, on s'en remet un peu trop aveuglément aux clercs, donc aux prêtres, aux évêques, à la structure, et les simples fidèles ne sont pas assez actifs. Donc ça, c'est le deuxième volet de la prise de conscience, c'est-à-dire que, comme disait fort bien une dame en disant « les prêtres sont des hommes comme les autres », voilà, il faut, pour éviter des abus, il y a une attitude un peu fondamentale qui est de dissoudre en quelque sorte, de détruire ce cléricalisme, de détruire un petit peu ce statut d'intouchable que pouvaient avoir les prêtres à une certaine époque et peut-être encore aujourd'hui dans certains milieux. Parce que ce qui est terrible, c'est que si on vient à l'affaire initiale de Père Prénat, finalement, les familles en quelque sorte savaient, se doutaient, se disaient que, on pensait que, on savait qu'un tel petit garçon, etc. Eh bien, ça n'est pas sorti à ce moment-là. Il y a une famille qui a porté plainte, enfin, ou qui a alerté le cardinal de Courtrai à l'époque, mais assez tardivement. Donc, le silence, il était un peu à tous les niveaux. Et donc, pour pouvoir lutter et aider, empêcher qu'il y ait de nouveau des actes pédophiles, eh bien, ça passe aussi par un autre regard sur les prêtres et les évêques aujourd'hui.
Serge Simino, puisqu'on parle de ce silence, de cette omerta, est-ce que c'est parce que les hommes d'église ont été sacralisés, qu'ils se sont mis en dehors du monde et donc des lois humaines?
On voit dans l'histoire que le silence est toujours coupable. Après, là, on parle du monde ecclésiastique, mais tous les silences tout au long de l'histoire ont été coupables. Le procès de Mgr Barbarin, c'est certes celui d'un homme d'église.
Mais il y aura aussi cinq religieux
qui
l'accompagnent dans ce procès.
Bien évidemment, mais c'est le procès du silence de l'ensemble de l'Église catholique. Est-ce que après l'affaire Barbarin, l'Église catholique va, enclencher la deuxième, la troisième, la quatrième, pour réellement faire ce travail? Et je pense que les victimes l'attendent, ceux qui ont porté plainte, mais ceux qui se taisent, et ça je ne sais pas, je ne dis pas que l'Église ne le fera pas, mais au-delà de ce procès-là, si tout s'arrête, Mgr Barbarin aura été, pardon de l'image, une victime expiatoire. Un coupable expiatoire, ça c'est un autre débat. Mais au-delà du silence, il faut que tout le monde parle et que le pape lui-même, qui a déjà évoqué ce sujet-là...
Il a pris la parole parce qu'il y a eu des scandales en Australie, aux États-Unis, en Irlande, où il n'a pas été bien accueilli, en Irlande.
Oui, absolument. Alors, c'est surtout au Chili où il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y était allé en voyage il y a un an à peu près. Et là-bas, il a dépendu... Enfin, ses sources d'informations l'ont trompé. Et donc les évêques ou les prélats sur lesquels il comptait pour l'informer lors de son voyage l'ont trompé, et donc il a une attitude de rejet en quelque sorte des demandes des victimes de pédophilie au Chili. Et quand il est revenu au Vatican, il y a eu un tel tollé qu'il a envoyé deux enquêteurs, des très proches pour le coup, et qui lui ont révélé, qui lui ont expliqué qu'il avait été trompé. Du coup, il a demandé la démission de tous les évêques chiliens. Donc il est un peu, et je pense que aussi au niveau de l'Église de France, il y a là maintenant, vous mentionnez la rencontre de Lourdes, l'Assemblée Générale à Lourdes en novembre, la prise de conscience, elle est vraiment réelle, et il y a des procédures aujourd'hui qui sont mises en place qui font que dès qu'il y a suspicion d'abus sexuels, d'atteinte sexuelle, eh bien, l'affaire doit être transmise à la justice. Bien malheureusement, il y a deux prêtres qui se sont suicidés parce que tout à coup, ils étaient, en quelque sorte, sur la sellette. Je voudrais juste ajouter un petit point. Le silence, il n'était pas que dans l'Église catholique. Et le silence, il est encore vrai aujourd'hui dans bien d'autres milieux que l'Église catholique. Et dans le premier milieu qui est la famille. Moi, j'ai été très frappé, très bouleversé par un documentaire qui est paru en novembre sur France 2 et qui s'appelait « L'enfance abusée ». Et vous aviez, je ne sais plus si c'était 6 ou 8 jeune homme, jeune femme, qui témoignaient face caméra de ce qui leur était arrivé quand ils étaient enfants. Et c'était 20 ans après les fêtes. Mais voilà, ils montraient combien, alors que le voisin, l'entraîneur de sport, le grand frère, etc., abusaient d'eux, eh bien combien dans la famille... Ça ne se savait pas, ça ne se voyait pas. Même quand il y avait une enquête de gendarmerie, vous êtes sûr qu'un tel... Non, tout va bien, tout se passe très bien. Donc le silence, il est vraiment dans tous les milieux. On sait que la pédophilie, c'est d'abord dans les familles que ça se passe.
Je renvoie à la lecture du quotidien La Croix, votre quotidien demain, qui titre sur l'affaire Prena, le procès Barbarin. J'avais prévu qu'on parle de cette cyberattaque en Allemagne, mais on va tout de suite, juste après le rappel de l'info, passer à votre carte blanche d'actu, car le temps passe. Il est 20h50, l'essentiel de l'info avec vous, Augustin Rivet.
Les violences en marge des cortèges de gilets jaunes. Le policier filmé hier à Toulon en train de frapper un manifestant à coups de poing. Cet homme voit son passé ressurgir. Aujourd'hui, la police des polices a été saisie. Et d'après France Bleu Provence, ce commandant divisionnaire avait déjà été sanctionné il y a 2 ans pour avoir cassé le nez d'un de ses collègues. Pendant ce temps, l'ancien boxeur identifié hier s'en prenant à un gendarme à Paris. Cet homme est toujours recherché ce soir. Le collectif Droit au Logement a envahi aujourd'hui un immeuble laissé vide depuis 2 ans à Paris. Il appartient à une filiale du groupe Crédit Lyonnais Crédit Agricole. D'après France Bleu Paris, 200 SDF et militants y ont pris place. Le DAL qui dénonce ainsi les logements vacants dans la capitale, 11,7% de tout le parc immobilier, d'après les statistiques du collectif. Pour la première fois depuis l'indépendance de la Malaisie, le roi de ce pays asiatique a abdiqué aujourd'hui. Il s'appelle Muhammad V, aucune explication n'a été donnée. Les rois là-bas n'ont que des mandats de 5 ans, ils sont ensuite remplacés par un autre dirigeant de province. Le coup d'envoi a été donné il y a 4 minutes entre Pontivy et le Paris Saint-Germain, 32e de finale de Coupe de France, toujours 0 partout. Tout à l'heure, l'Olympique de Marseille a trébuché sur le terrain d'Andrézieux, victoire des Liguriens 2-0, élimination de Bordeaux et Nice, sortis respectivement par Le Havre et Toulouse.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Alors le dimanche soir, on conclut ces informés de France Info par une carte blanche d'actualité. Je vous donne le temps d'un coup de projecteur sur un fait d'actu que nous n'avons pas traité ce soir. Mais on va commencer par vous, Nora Hammadi.
Alors, c'est un fait d'actualité qui a été quand même un petit peu traité puisqu'il a fait partie des polémiques qui ont émergé cette semaine. C'est le cas de cette jeune femme qu'on a appelée Aïda, qui a vu son indemnisation en fait par le fonds de garantie des victimes rejetée en partie parce qu'elle a été victime donc de violences conjugales.
Ça se passe au Mans.
Son compagnon la défenestre. Elle est aujourd'hui paraplégique et il s'avère que le fonds de garantie a dit non, vous êtes finalement rentrée chez vous après avoir appelé les forces de l'ordre qui ont essayé de vous trouver une solution, sauf que cette solution
qui vous avait prévenu.
Voilà, qui vous avait voilà. Et cette solution en fait n'était pas convenable puisque de fait elle a dû rentrer chez elle puisqu'elle n'avait pas d'hébergement pour cette nuit-là. Et il s'avère que c'est dans cette nuit en fait que son compagnon le défenestre. Alors au-delà du fait que cette histoire est absolument dramatique, elle est aussi assez révélatrice en fait de l'état des violences conjugales en France. Je rappelle juste à titre informatif, puisqu'on a peut-être déjà oublié que les violences conjugales ont été déclarées grande cause nationale 2018. Sauf que en termes de moyens, les associations en fait sont toujours en train de pleurer en disant que elles n'en ont pas assez, que l'accompagnement de ces femmes aujourd'hui ne se fait pas correctement et que les solutions notamment de prévention vis-à-vis des plus jeunes aujourd'hui que serait notamment l'éducation sexuelle à l'école beaucoup plus tôt ne sont pas mises en œuvre. Je rappelle juste à titre aussi informatif que c'est le cas partout en Europe. Une femme sur cinq est concernée et le paradoxe veut que ce soit la Finlande qui est le plus mauvais, qui soit le plus mauvais élève en Europe. En l'occurrence, une femme sur trois est victime de violences conjugales. Et tout ça pour vous dire que on est aujourd'hui le 6 janvier, que cette grande cause nationale est derrière nous, mais qu'on voit encore que tout ceci ne règle rien, puisque une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les trois jours.
Votre carte blanche d'actu, Jean-Christophe Plequin.
Alors, c'est un livre qui est sorti le 3 janvier et qui s'intitule « L'Europe est-elle chrétienne ?». C'est un auteur qui est Olivier Roy, qu'on connaît bien parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'islam. Et notamment, il a été d'ailleurs dans une controverse assez animée avec un autre islamologue qui s'appelle Gilles Kepel. Et là, il s'intéresse finalement à l'Europe et finalement, il se pose la question. On connaît tout ce débat sur ce que l'Europe a des racines chrétiennes, est-ce qu'il y a un patrimoine, ce patrimoine chrétien qui existe aujourd'hui dans l'Europe, que faut-il en faire? Et il s'interroge, il pose énormément de questions, par exemple, pourquoi est-ce que les populistes aujourd'hui, quelqu'un comme Orban, qui n'est pas particulièrement croyant, mais pourquoi est-ce qu'au moment de Noël, il fait des grands messages en disant voilà, nous sommes tous chrétiens. Et en fait, il montre qu'il y a une sorte d'identité chrétienne qui n'a pas besoin de la foi, qui ne passe plus par la foi. En quelque sorte, c'est important qu'il y ait des églises dans les villages, mais s'il n'y a personne dedans, c'est pas grave. C'est un peu l'un des constats qu'il fait. Et sinon, là où il a une réflexion très stimulante, c'est finalement, il estime que l'Europe aurait besoin un petit peu d'une sorte de retour aux sources et de réinterrogation sur ce que le christianisme peut aujourd'hui apporter de nouveau à l'Europe.
C'est donc le livre d'Olivier Roy aux éditions du Seuil, « L'Europe est-elle chrétienne ?». Je précise que demain sera célébré le Noël orthodoxe.
Par ailleurs, et qu'il est en débat avec Pascal Lamy mardi soir dans Paris, je ne sais plus où, mais vous trouverez facilement l'information.
Votre carte blanche d'actualité, Serge Simino.
Oui, je pense que demain, 7 janvier, on se rappellera tous où nous étions le 7 janvier 2015. Où vous le saviez, vous vous en rappelez tous, Charlie Hebdo était frappé de plein fouet par le terrorisme. Alors bien évidemment, pourquoi une carte blanche, pas simplement pour commémorer, mais bien évidemment, on pense aux victimes du terrorisme, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont blessés, ceux qui sont traumatisés. Mais souvenez-vous, quelques jours après, il y avait le 11 janvier, où nous manifestions, moi je manifestais, à la fois contre le terrorisme et pour la liberté d'expression. Alors il y avait des gens qui n'étaient pas Charlie, c'est tout à fait leur droit, mais je me demande aujourd'hui si ceux qui étaient Charlie sont encore Charlie aujourd'hui, et que cette liberté d'expression, je pense qu'il faut qu'on se rappelle que c'est un droit, que c'est une nécessité, que ça fait partie de notre société, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça a été un petit peu oublié. Je ne fais pas référence simplement à l'actualité liée aux Gilets jaunes et à la presse qui en prend pour son grade, parfois à juste titre, mais ça ne justifie pas les agressions. Donc c'était aussi cette carte blanche que je voulais mettre en place aujourd'hui.
Mais merci d'avoir donné cette carte blanche, puisque demain matin, il y a le 8h30 politique de France Info, radio et télé, avec Marc Fauvel et Renaud Dely, sera consacré justement à cette liberté d'expression. Ils recevront le dessinateur de presse RIS, le patron de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, la rédaction de l'hebdomadaire, vous le rappelez, était attaquée par des terroristes islamistes. 8 membres de la rédaction et des policiers étaient assassinés par ces terroristes. Le lendemain, c'est une policière municipale qui était tuée à Montrouge, puis 4 personnes de confession juive dans une supérette cachère de la porte de Vincennes. RIS, avec lui, nous reviendrons sur ces douloureux événements, sur la menace terroriste, sur la liberté de la presse aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes. Notez bien ce rendez-vous, 8h30, demain matin sur les antennes de France Info, radio et télé, canal 27 de la TNT. Je vous remercie d'avoir participé à ces informés. Nora Hammadi, journaliste que l'on retrouve dans l'émission Vox Pop sur Arte. Merci également à vous, Serge Simino, de la rédaction du Service politique de France 3. Merci à notre partenaire Jean-Christophe Ploquin du journal La Croix. À suivre, la météo et l'info.